VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Crise dans le bassin du lac Tchad. Les ambassadeurs au Conseil de sécurité de l'ONU se rendent ce jeudi au lac Tchad dans le but d'attirer l'attention sur une des plus graves crises humanitaires de la planète qui combine famine, attaques djihadistes, changement climatique et mauvaise gouvernance. Cette crise touche quelque 21 millions de personnes réparties dans 4 pays, Nigeria, Tchad, Cameroun et Niger. La visite des 15 représentants du Conseil de sécurité vise à ouvrir la voie à une action plus forte de l'organe exécutif de l'ONU pour tenter de résoudre une crise largement ignorée par la diplomatie mondiale alors que les conflits en Syrie et au Soudan du Sud s'intensifient. Au Tchad, la communauté étudiantine scolaire mobilisée pour exiger la libération de 69 étudiants de l'université de N'Djamena, condamnés à un mois d'emprisonnement ferme. Ils avaient été arrêtés le samedi dernier pour avoir endommagé la voiture du ministre en charge de l'enseignement supérieur pendant sa visite sur le campus universitaire. L'un des avocats des étudiants arrêtés, Maître Alain Kagombe, dénonce une condamnation contraire à la loi, dit-il. On l'écoute.
La condamnation des étudiants ne repose sur aucune base juridique. L'article 23 de notre code de procédure pénale est clair. On ne peut pas diviser la poursuite, mais dans le cas de l'espèce, c'est 3 magistrats qui ont jugé l'affaire différemment. C'est scandaleux. Il faut que la justice soit de plus en plus intègre. Ils ont été condamnés à un mois ferme. On ne sait pas c'est quelle loi même qui a été appliquée. Puisque quand on parle de concours d'infraction, là, l'infraction la plus élevée, c'est la destruction des biens. Le minimum des peines, c'est 6 mois à 5 ans. Mais les 1 mois, là, ils ont trouvé où ils ont appliqué quelle loi, on ne sait pas. Personne ne peut dire qui a cassé le véhicule. Le droit pénal, il n'est pas comme ça. Ce qui vient de se passer, moi, je crois que c'est la plus grande injustice. Et en tant qu'avocat défenseur des droits de l'homme, je suis indigné.
Maître Alain Kagombe, N'Djamena au Tchad. Au Nigeria, de nouveaux combats entre l'armée et le groupe djihadiste Boko Haram ont forcé 7000 personnes à fuir leur village et à se réfugier à Chibok. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
Entre le 25 février et le 1er mars, soit en moins d'une semaine, ce sont près de 4500 personnes qui sont arrivées dans la ville de Chibok, selon un rapport de l'OIM, l'Organisation internationale des migrations. Le 10 février dernier, c'est un groupe de 2000 personnes qui a fui le village de Kaya pour se réfugier dans la ville voisine de Damboa. Selon des représentants locaux de Chibok, les villageois ont commencé à fuir lorsque l'armée les a prévenus de l'imminence d'une nouvelle opération militaire d'envergure. Une situation très problématique car les villes sont déjà saturées par les nombreux déplacés qui ont fui les atrocités de Boko Haram. Plus de 2500 personnes étaient déjà réfugiées à Chibok et près de 55 000 à Damboa selon l'OCHA. La situation est presque similaire aux abords du lac Tchad où 8000 personnes ont afflué début février vers Monguno. Les humanitaires peinent à venir en aide au flot constant de déplacés à cause du conflit mais aussi par manque d'accessibilité à de nombreuses zones. L'OCHA estime que 5,1 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire dans tout le nord-est du Nigeria.
En RCA, la ville de Bria, au centre-est du pays, toujours en proie à l'insécurité. La situation altère notre calme et inquiétude. Et la présence des casques bleus de la MINUSCA, la mission onusienne sur place, ne rassure pas forcément la population. Conséquence, les habitants prennent des mesures d'autodéfense. Écoutez le témoignage d'Arthur, employé d'une ONG locale.
Là où on est, chacun prend ses dispositions pour ne pas être pris par qui que ce soit. Et donc, du coup, là, présentement, ce sont les groupes rebelles qui sont là et qui prennent contrôle de la ville. Bon, il ne faut pas trop d'exactions, mais on se méfie, quoi. Donc, la sécurité n'est pas vraiment au beau fixe. La piscose, ça existe de tout moment, parce que vous pouvez être là, vous sortez, il n'y a pas d'information, mais du coup, il y a une détonation et voilà.
Le témoignage d'Arthur, employé d'une ONG locale à Bria en RCA. En République démocratique du Congo, voisine les FARDC, l'armée nationale, disent avoir tué 20 rebelles du mouvement du 23 mars et perdu 2 soldats lors de combats depuis la fin janvier dans l'est du pays. Le point avec Anastasie Tudiech.
Pendant une conférence de presse hier à Goma, le général Léon Mouchalé, commandant des opérations militaires dans la province du Nord Kivu, a fait état de 20 morts chez les rebelles, 25 capturés et rendus, deux soldats tués et six blessés dans les rangs de l'armée. Les affrontements ont eu lieu le 31 janvier, puis du 20 au 22 février sur trois fronts, notamment à Matebe sur la colline de Songa et à Kitagoma à la frontière avec l'Ouganda. Kinshasa avait fait état, à la mi-janvier, de la présence d'anciens combattants du M23 vers Rutshuru, dans le nord-est du pays. Cette rébellion à dominante Tutsi a été battue en novembre 2013 par les FARDC, appuyée par les casques bleus, après 18 mois de guérilla. Plusieurs centaines de ces combattants avaient alors trouvé refuge en Ouganda et ont été cantonnés dans la base militaire de Bianga. Un accord signé avec le gouvernement à Nairobi prévoyait leur retour au pays, mais il n'a jamais été appliqué.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Mali, l'installation des autorités intérimaires dans le nord par le gouvernement et ses partenaires locaux a commencé mardi par Kidal. Ce jeudi, ce sera autour d'autres villes du nord comme Gao, la grande métropole régionale. Ces installations font partie de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Pour une analyse, Bagassi Courage joint à Bamako le docteur Étienne Fakaba Sissoko, directeur du Centre de recherche d'analyse politique, économique et sociale du Mali.
Ce qui est sûr, la mise en œuvre de l'accord aujourd'hui est en marche. Est-ce qu'elle permettra au Mali de retrouver toute la paix? C'est là toute la question. Il ne faut pas oublier également que l'accord, au-delà de son caractère non inclusif, il y a les raisons profondes aujourd'hui de la crise qui n'ont toujours pas été débattues et qui, on l'espère, le seront lors de la prochaine conférence d'entente nationale. Donc il y a aujourd'hui un ensemble d'éléments qu'il faudra prendre en compte pour se dire si oui ou non la paix est en marche aujourd'hui dans notre pays. Ces questions-là doivent être appuyées par le retour de l'administration au nord, ça doit être appuyé par le retour des réfugiés, mais surtout le retour de l'armée nationale au-delà du mécanisme opérationnel qui est le MOC, que l'armée retrouve toute sa place au nord, dans la sécurisation du nord. Cela nous permettrait de dire enfin que le Mali est sur la voie de la réconciliation, le Mali est sur la voie de la paix.
Alors, il semble qu'il y a des résistances dans d'autres régions, notamment à Tombouctou et à Gao. Quelles peuvent être les raisons de ces résistances-là?
C'est surtout le choix des personnes qui, d'après certains, n'a pas été le plus inclusif qu'on l'aurait souhaité. Des personnes qui, à un moment de l'histoire de notre pays, ont trempé dans des histoires d'exaction et qui, aujourd'hui, font les frais de cela. Il y a, d'autre part, également la mauvaise foi d'une partie des groupes armés qui aujourd'hui n'ont pas intérêt à ce que le processus de paix soit en marche parce qu'on le sait, au nord de notre pays, il n'y a pas que des revendications politiques. Il y a une guerre aujourd'hui pour la maîtrise des routes de drogue, pour la maîtrise des chemins qui mènent au trafic de drogue. Donc il y a toute cette pesanteur-là aussi qui rentre en compte. Donc d'une part, il y a le choix des personnes qui posent problème, mais il y a aussi la mauvaise foi d'une partie des groupes armés qui fait que le processus de paix n'arrive pas à atteindre la vitesse de croisière qu'on souhaite.
Alors après l'installation des autorités intérimaires, quelle est la prochaine étape?
La prochaine étape, bien entendu, c'est de permettre aux autorités intérimaires de jouer pleinement leur rôle. Je vous parlais tantôt du retour de l'administration, du retour des réfugiés et du retour des FAMA sur le nord de notre pays. C'est cela le défi, moi, de mon point de vue. Et que les populations, au-delà des discours politiques, se sentent véritablement sécurisées parce que le défi sécuritaire reste encore quelque chose de très criable dans le nord de notre pays. Donc la prochaine étape, moi de mon point de vue, c'est de nous permettre de faire l'évaluation de cette avancée politique que nous venons de faire. Parce que mine de rien, la symbolique du flottement du drapeau national sur le nord de notre pays n'est pas à négliger après trois années de crise.
Le docteur Étienne Fakaba Sissoko, directeur du Centre de recherche d'analyse politique, économique et sociale du Mali. Et puis au Soudan, le président Omar al-Béchir a nommé Bakri Hassan Saleh un proche conseiller au poste de Premier ministre. Une première depuis qu'il avait supprimé cette fonction lors du coup d'État qu'il a porté au pouvoir en 1989. Bakri Hassan Saleh prête serment aujourd'hui. Et pour terminer, politique américaine, le Washington Post rapporte mercredi que le sénateur Jeff Sessions, aujourd'hui ministre de la Justice de l'administration Trump, s'est entretenu à deux reprises avec l'ambassadeur russe à Washington pendant la campagne électorale et a passé sous silence ses rencontres lors de son audition au Sénat. La Maison-Blanche a dénoncé ce qu'elle a appelé une nouvelle attaque partisane des démocrates et M. Sessions lui-même a précisé qu'il n'a rien passé sous silence. Mais la chef des démocrates à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a exhorté le ministre américain de la Justice, Jeff Sessions, à démissionner.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.